RCF.
C'est pas moi la petite musique, hein. Je sais pas d'où elle vient, elle m'a également surprise en tout cas. Il est 18h10, c'est l'heure du 18-19 en région, voici Alexis Claudretz.
Alexis Claudretz qui n'est pas tout seul, sinon il ne serait pas grand chose pour cette émission. Déjà on a Fabrice Gironnet que vous avez entendu à la technique, on a aussi nos habitués du jeudi et notamment Gérard-Marie Henry qui est dans ce studio. Gérard-Marie, bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
On va reparler des agriculteurs dans cette question d'économie avec vous dans quelques secondes et on va peut-être être un petit peu provocateur, j'allais dire, vis-à-vis des agriculteurs, mais on va peut-être se demander si finalement ils sont tant à plaindre que ça.
Oui, on va essayer de voir quel est leur niveau de revenu et on verra que effectivement il y en a qui gagnent très peu, mais en moyenne, ils sont dans la classe moyenne.
Effectivement, et on verra qu'il y a des Français donc, qui galèrent peut-être un petit peu plus que certains agriculteurs qui étaient du côté des blocus et des blocages il y a quelques jours. Nous sommes également avec Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction, plutôt sur le pôle communication, mais elle participe quand même activement à la vie du journal avec la page météo. Mélissa, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous allez nous raconter comme tendance côté ciel demain ?
Bah, comme toute la semaine, quoi. Enfin...
De la pluie.
Exactement.
On aurait espéré de meilleures nouvelles, mais vous êtes notre soleil ici à RCF. Au programme ce soir, Arnaud Bocquillon, le maire de Puiseux, qui nous emmènera faire un tour dans sa commune. Ce sera juste avant le journal régional de 18h30, où l'on présentera différentes choses, et notamment, on vous emmènera découvrir l'Abbé Brasserie à Bernicourt, près de Rethel, dans le département des Ardennes. Et puis, on fera quelques rencontres, notamment celle de Pierre Paget, qui présentera les dimanches de la santé dans le diocèse de Châlons, mais c'est dans tous les diocèses de France qui est organisé ce dimanche de la santé, donc dimanche prochain. Et puis nous serons également avec Olivier Cuissard, le directeur de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, pour présenter un très beau rendez-vous, les portes ouvertes de son établissement. C'est ce samedi l'occasion de découvrir les 5 licences, les masters également qui ouvrent à la rentrée, les masters d'ailleurs à l'ICP qu'il faut dire. Et puis les jeunes et la lecture, c'est la chronique en 240 secondes de Suzanne Joss, ça sera cette fois juste après le journal régional. Voilà pour le sommaire, un petit peu long, mais c'est vrai qu'on avait envie de présenter chacun de nos intervenants. Et puis il y a Gérard-Marie Henry qui a enlevé sa casquette de marin, il est revenu de Bretagne, il est avec nous en direct dans ce studio. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour.
Gérard-Marie, on va parler des agriculteurs. Si l'on fait une photographie d'abord pour commencer du monde agricole et des agriculteurs, comment ils gagnent leur vie et est-ce que l'on peut dire qu'ils gagnent bien leur vie, entre guillemets ?
Non, ils n'ont jamais très bien gagné leur vie, mais en fait, on a des écarts de revenus importants entre ces différents agriculteurs, suivant les activités qu'ils ont. On a par exemple les céréaliers de notre région qui, quand ils travaillent sur des grandes surfaces, ont des revenus tout à fait conséquents. Et puis, on a des petits agriculteurs qui sont des producteurs de lait, des producteurs marginaux, qui ont un petit cheptel de vaches et qui ont effectivement des difficultés. Donc on a un ensemble agricole, un peu comme toute la société française, qui est très diversifié. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt un peu voir à peu près la moyenne des revenus que perçoivent ces agriculteurs.
Alors justement, ces agriculteurs, combien gagnent-ils en moyenne pour rentrer dans le vif du sujet ?
On va dire à peu près entre 1850 et 2000 euros par mois, avec toujours des chiffres de l'INSEE qui ont 2 ans de retard. Hein. On travaille sur l'année 2022, mais c'est des chiffres qui nous donnent donc des revenus moyens des agriculteurs qui sont assez semblables à ceux des employés, par exemple. Or, quand on est employé, on considère qu'on est dans la classe moyenne, évidemment le bas de la classe moyenne, mais les employés français pour la même année de 2022 touchaient à peu près 1880 euros, c'est-à-dire à peu près ce que touche l'agriculteur moyen.
Donc là, on compare, j'allais dire, les salaires et le gain à la fin de l'année de chacune de ces tranches d'activité. Si l'on fait le rapport avec le nombre d'heures travaillées, est-ce que l'on tombe sur nos pattes de la même manière ?
Ben, on a toujours l'impression que les agriculteurs sont toujours dans leurs champs. En fait, quand vous passez à côté des champs, de temps en temps, vous voyez à une certaine période un tracteur ou une moissonneuse. Mais en fait, on a les fermes françaises, on considère qu'elles sont des fermes à un demi salarié. En fait, donc on a du temps libre, on a des activités diverses. Et puis surtout, ce qui change un peu la donne, c'est que la plupart de ces agriculteurs, évidemment, vivent en couple et que généralement le conjoint a une activité en dehors de l'agriculture. Par exemple, on a les bus de ramassage des enfants, des choses comme ça, dans lesquels on a des activités qui sont réalisées par des conjoints d'agriculteurs. Donc ça veut dire que par exemple, le niveau de vie des ménages agricoles est de l'ordre, toujours d'après l'INSEE, de 52 400 euros par an. ce qui est encore une fois à peu près respectable, avec un tiers de ses revenus dans ses 52 400 qui ne vient pas des activités agricoles.
Encore une fois, Gérard Mariori, aujourd'hui avec vous, on regarde ce que gagnent les agriculteurs en moyenne.
Oui.
Évidemment, on ne nie pas non plus qu'il y a quand même des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Alors tout à fait. Alors suivant les estimations, on a entre 15 et 20% des agriculteurs qui vraiment ont des difficultés. Donc le seuil de pauvreté en France, c'est à peu près 1100 euros par mois. Ils ont moins de 1100 euros par mois. Et ils pourraient, ce qui est assez extraordinaire, là on voit qu'ils sont un peu différents du français moyen, ils pourraient demander à bénéficier du RSA, donc ce revenu de solidarité active qui permet de compenser justement lorsqu'on a un revenu très faible. Et en fait, on a très peu d'agriculteurs qui le demandent. Il y en a seulement 11 000 sur ces 70 000 qui ont des difficultés de fin de mois. Il y en a seulement 11 000 qui demandent le RSA.
Et on ne sait pas pourquoi ils ne s'engagent pas plus davantage dans cette voie?
Ben parce que ils ont un petit peu honte de faire la manche. En fait, il y a peut-être le refus de remplir des papiers qui montrent qu'ils sont déclassés, etc. Donc on a effectivement un noyau d'agriculteurs, mais ce ne sont pas ceux qu'on a vus avec leurs gros tracteurs, évidemment. Un noyau d'agriculteurs qui souffrent, c'est là où on a les cas suicide que l'on monte beaucoup en épingle. Hein. C'est une profession qui a un nombre de suicides à peu près équivalent à celle des policiers. Et donc on a effectivement une agriculture marginalisée, mais on l'avait raconté il y a quelques semaines, hein, c'est le refus de la croissance des exploitations. On maintient les activités d'agriculteurs, d'une agriculture familiale à coup de subventions. Puisqu'il faut rappeler qu'on a une politique agricole commune dans l'Union européenne et que cette politique agricole commune soit à peu près le tiers du budget de l'Europe, elle est versée aux agriculteurs. Et les agriculteurs français touchent en moyenne 40 000 euros de subventions. Et ces subventions, en fait, elles vont plutôt au gros, puisqu'une partie importante des subventions est sur la surface exploitée. Donc si vous avez 50 hectares, ben, vous touchez 4 fois moins que si vous en avez 200, vous touchez 8 fois moins que si... Et donc on a à la fois, on soutient l'agriculture familiale, mais on creuse un peu les écarts de revenus.
Et donc quand la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles est dans la rue avec les fédérations départementales qui suivent, c'est finalement plutôt des, entre guillemets, gros agriculteurs qui manifestent et qui se plaignent peut-être presque d'aise, plutôt que les petits agriculteurs qui vivent au niveau du seuil de pauvreté qu'on évoquait il y a quelques instants.
Mais c'est les agriculteurs qui se plaignent, en fait, ils se plaignent surtout des normes excessives qu'on leur met sur la tête. Ils se plaignent surtout des changements de politique, comme par exemple ce gazole qui était détaxé, qui ne l'est plus. C'est pas tellement une question de revenus, c'est aussi une question de position dans la société, puisqu'ils sont pris en écharpe entre, d'un côté, l'opinion publique qui aimerait bien que les agriculteurs ne fassent pas de bruit, ne sentent pas mauvais, etc. D'autre part, l'administration qui veut qu'ils soient écolos, qui respectent des règles très difficiles à respecter. Et donc tout ça se manifestait dans les mouvements qu'on a connus dans les semaines passées.
Ça veut dire que, comme c'est titré sur un des documents que vous nous avez envoyé pour préparer cette chronique, Gérard Marie-Henri, l'état d'urgence économique des agriculteurs, c'est loin de refléter finalement la réalité du monde agricole.
Oui, tout à fait. Et c'est un peu en décalage par rapport à la vision misérabiliste que certains ont propagée. En fait, on n'a pas des agriculteurs riches. On a quelques-uns qui s'en sortent pas mal, mais en fait, ils ont un revenu de classe moyenne, ce qui, dans la France de 2024, est un revenu assez correct. On arrive à faire la fin de mois avec 2000 euros par mois.
Est-ce que l'on peut arriver à un moment donné à un consensus entre nos agriculteurs qui gagnent beaucoup d'argent, et tant mieux pour eux, et ceux qui en gagnent beaucoup moins et qu'on aimerait vraiment, pour le coup, pouvoir aider?
Est-ce qu'on va continuer à les aider? Toujours pareil, quoi. Ce sont des exploitations marginales, elles sont déjà subventionnées, on ne peut pas tellement aller plus loin. Ce qu'il faudrait, c'est les aider à partir, faire ce qui a existé, qui s'est fait dans différents pays, c'est-à-dire on leur propose de leur racheter leur exploitation de façon à ce qu'ils aient une retraite, parce qu'en général, en plus, ce sont des agriculteurs âgés, donc on les aide à partir de façon décente, et on a une augmentation de la surface disponible pour les autres exploitants qui sont plus dynamiques, plus efficaces, plus productifs. Mais ça, pour l'instant, les instances...
Il y a une sorte de fierté du côté des agriculteurs aussi, de ne pas vouloir lâcher leur
Les syndicats agricoles refusent, enfin les syndicats agricoles, surtout ceux qui sont à gauche, on va dire, disent non, il faut continuer à avoir une agriculture familiale, c'est-à-dire une une agriculture qui gagne pas tellement sa vie.
Ceci étant dit, Gérard-Marie-Henri, moi je suis un enfant dans la campagne, je suis né dans les rues d'un petit village dans les Ardennes. Je me vois, quand j'étais gamin, aller chercher le lait à la ferme pour payer 10 francs le litre. À l'époque, c'était quand même pas grand-chose finalement. Et je me vois aller acheter le lait, etc. On se dit que c'est quand même des moments que l'on pouvait vivre. Si ces exploitations familiales disparaissent, on ne vivra plus ces moments-là.
Ah oui, on est d'accord avec toi, mais effectivement, la société change, quoi. Les constructeurs automobiles, à la fin du 19e, ils faisaient les voitures à la main. Maintenant, on les fait en Turquie ou en Slovaquie. Donc, on ne voit plus de constructeurs automobiles à Reims, on ne voit plus de fabricants de robinets. Moi, j'ai fait, quand j'étais étudiant et qu'il fallait que je gagne un peu ma vie, j'ai fait les 3-8 dans les verreries mécaniques, où on faisait des bocaux, c'est fini tout ça.
C'est fini. Bon, c'est une autre époque, c'est un autre temps. Voilà. Merci Gérard-Marie-Henri de nous avoir éclairé en tout cas sur le niveau de vie des agriculteurs. Et on vous dit à très bientôt avec de nouvelles questions d'économie pour nous éclairer.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h21, Zoom sur une commune des Ardennes ce jeudi soir avec son maire, Arnaud Bocquillon, et maire de Puiseux, justement, dans le département des Ardennes. Il nous y emmène avec Jean-Pierre.
Arnaud Bocquillon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous de découvrir votre commune, la commune de Puiseux. Alors est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous la présenter, le nombre d'habitants, comment sont ces habitants, des retraités, des jeunes, des agriculteurs? Bref, vous avez la parole, monsieur le maire.
Présenter succinctement la commune, le recensement va avoir lieu le mois prochain, mais on est recensé à environ 115 personnes. Un petit village rural situé à une demi-heure de Charleville et on va dire 40 minutes de Reims, à proximité de l'échangeur de l'autoroute Voynich, ce qui nous donne un attrait, économique, parce que les accès routiers sont très bien desservis. Un renouvellement de la population a eu lieu sur les 15 dernières années, on va dire, de par la démographie naturelle. Et aujourd'hui, à l'âge de 47 ans, comme je dis tout le temps, je suis dans les plus vieux du conseil municipal, ce qui fait qu'il y a quand même un bon renouvellement.
Alors, monsieur le maire, je vous interromps, parce que dans beaucoup de maires que nous rencontrons dans les villages ardennais, il n'est pas rare d'avoir des gens très plus âgés, mais surtout en retraite, et qui se considèrent encore, et ils ont raison d'ailleurs, d'être encore jeunes, mais ils ont 75, 80, à 47 ans, vous êtes on est un peu familier sur RCF. Vous êtes presque un nourrisson, monsieur Bocquillon.
On pourrait dire des fois qu'on est considéré comme ça. Après, comme je vous ai dit, de par la force des choses, toutes les personnes qui ont pu passer au conseil municipal, ils ont déjà donné, j'ai envie de dire. Et ce rajeunissement s'est imposé au cours des dernières élections, parce qu'il y en a qui rendaient leur tablier de par, on va dire, pas l'usure morale, mais on va dire peut-être un peu physique. Et ils avaient déjà donné beaucoup, donc on s'est trouvé un peu confronté à faire ce renouvellement et à s'engager. Tout simplement, on a bataillé, on n'avait pas trop le choix que de renouveler le conseil municipal et de faire en sorte que ça continue, quoi. Donc, si on veut que ça avance, il faut y aller.
Alors, c'est pas forcément monsieur le maire, simplement, avant de venir à vous sur votre commune, cette population, est-ce qu'elle a aussi été renouvelée au niveau des habitants? Il y a certains maires qui nous disent, mais c'est pas toujours le cas. Avec le Covid, vous avez des gens qui ont aimé un peu plus la campagne, qui ont dit, on va quitter Charleville, on va quitter Sedan, on va trouver peut-être une maison à des prix plus abordables et on va venir à la campagne. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de choses, ou c'est vraiment pas partout pareil, quoi.
Non, mais on le ressent dans l'environnement local, de par l'engouement à l'achat. Il est clair que dès qu'il y a un bien à vendre, il ne reste pas très longtemps sur le marché. Il y a même des biens qui se vendent pratiquement sans annonce, de par le bouche à oreille et des choses comme ça. Enfin, c'est très rapide. En fait, nous, on a, au niveau de la commune, on a des logements locatifs appartenant à la commune. Ça reste pas vide, quoi. Ça ne traîne pas et on sent qu'il y a un attrait. Alors, je ne dis pas que moi, c'est dû au Covid. Je pense que c'est dû, je vous ai dit, à la proximité des axes routiers, qui fait qu'il y a une forte demande sur l'axe Reims-Charleville. Et dès qu'il y a, entre guillemets, une place qui se libère, elle est comblée. Moi, je le dirais plutôt comme ça.
Alors, monsieur le maire, vous-même, comment êtes-vous venu maire de Puiseux? Est-ce que vous étiez déjà au conseil municipal avant, adjoint? Vous avez fait votre parcours et puis on est venu vous chercher? Ou c'est le sens des autres, rendre service? Qu'est-ce qui vous a conduit à être maire à Puiseux aujourd'hui?
je vous avoue que c'était pas du tout à l'initiative de mes idées d'être au conseil municipal. C'est sur le, pas le mandat là, mais le mandat avant où je me suis, comme je vous ai dit, on a été un peu sollicité par les, par nos prédécesseurs. Ils nous ont dit, ben maintenant, c'est à vous d'y aller, quoi. Alors, ben, on réfléchit un petit peu, puis pas trop longtemps, parce qu'il faut bien qu'il y ait un conseil municipal qui tourne. Pour résumer, en fait, la crainte qui pourrait se faire, c'est que si on s'engage pas, pendant un temps, on parlait de fusion avec des communes voisines. C'est pas forcément une aberration, mais pour garder la maîtrise de nos investissements locaux, il est important que le conseil municipal existe. Donc, c'est pour ça qu'on s'engage. Moi, sur le mandat d'avant, j'ai démarré adjoint. Et de par les petits mouvements de conseil municipal, je me suis retrouvé maire intérim. Et là, j'ai été renouvelé maire sur le mandat dernier, quoi.
Alors, il faut dire, monsieur le maire, que souvent, aujourd'hui, il y a des maires qui ne veulent pas rempiler parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, plus qu'on ne le pense. Et dans cette émission, on le voit, c'est quand même beaucoup de travail. Combiner aussi une activité professionnelle et être maire, ce n'est pas toujours évident. C'est un peu votre cas, monsieur Bouquillon, Arnaud Bouquillon.
Oui, bah en fait, c'est un peu ça qui fait peur, parce qu'il faut arriver à concilier la vie de famille, concilier la vie professionnelle, et j'ai envie de dire presque cette activité de responsable local. Moi, j'ai tendance à le dire que c'est la case loisir qui saute pour faire ça. Ça choque c'est des fois certaines personnes quand, enfin voilà, quand il faut faire des dossiers de subvention, qu'on est confronté à des gens dont c'est le boulot et qui nous disent, ben, vous n'avez pas fait ça en temps et en heure, mais je leur dis, écoutez, moi, c'est mon loisir, quoi. Donc, il est vrai qu'il y a des fois, on défaille un peu sur,
alors,
sur la responsabilité. Oui.
Alors, monsieur Arnaud Bouquillon, maire de Puiseux, on a envie de vous demander également à propos des communautés de communes. Celles-ci ont pris, bien sûr, du pouvoir, mais le maire, d'une certaine façon, il reste le patron, entre guillemets, dans sa commune. Le maire, on le reconnaît. Dans le monde d'aujourd'hui, on dit que les politiques sont très loin, mais le maire, vous vous êtes interpellé dans Puiseux. Vous ne pouvez pas faire un pas dans le village sans qu'on vous arrête.
Moi, je ne me considère pas comme le maire. Je me considère un peu comme, je vais dire gentiment, le coach. C'est l'intermédiaire de des fois toutes les misères, mais des fois des choses très positives aussi. Et il faut un contact de toute façon. Donc voilà, après, c'est pesant en certains moments, certes, mais quand c'est interne à la commune, c'est pas forcément le plus pesant.
Pour terminer, monsieur Bouquillon, parce que le temps passe vite, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve aussi pour d'autres émissions. Quand il se passe quelque chose, une kermesse, une fête, quelque chose à Puiseux, n'hésitez pas à nous joindre et à me joindre. Et bien sûr, on parlera de vous. Est-ce qu'il y a un projet en cours qui avance, ou est-ce que vous avez un projet pour les mois ou les années qui viennent?
Dans les années qui viennent, on a pour projet de renouveler la toiture d'une grange communale qui sert de salle d'association, de rassemblements communaux et quoi que ce soit. Donc ça, on est amené à faire un investissement là-dedans. La petite chose qu'on vient de faire, un petit peu originale, je vais dire, c'est qu'on a planté un arbre qui est revenu sur la commune à l'occasion d'Octobre Rose. On l'a planté le jour de la Sainte-Catherine. Et c'était pour en souvenir des pertes de la commune dues au cancer cette année, étant donné qu'on en a eu 4 personnes rattachées au cancer qui sont décédées. Donc on a planté un arbre avec une belle cérémonie. Ça peut donner l'idée à d'autres maires de le faire aussi, quoi.
Absolument, ouais. Monsieur le maire. Et d'ailleurs, on est vraiment en empathie avec tous ceux qui sont touchés, bien sûr, par cette maladie. Et Dieu sait s'ils sont nombreux parmi nos auditrices, nos auditeurs sur RCF. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Malgré tout ça, malgré les difficultés que le maire doit porter dans sa commune, je pose la question à tous les maires. Donc, vous n'allez pas y échapper, Arnaud Bouquillon. Malgré tout ça. Est-ce que vous êtes un maire heureux de faire ce que vous faites dans votre mission de maire à Puiseux?
Oui, je me sens pas pesé par ça. Il y a des fois, si, on aura envie de dire on arrête. Mes gamins disent des fois, quand est-ce que tu arrêtes? Mais mon épouse leur disait, s'il fait pas ça, il fera autre chose.
Donc... En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire Arnaud Bouquillon, maire de Puiseux, dans ce très beau département qu'est le département des Ardennes. Et on est bien sûr de tout cœur avec vous, avec votre commune. Et n'hésitez pas simplement sur RCF à nous joindre. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Encore une belle rencontre proposée par Jean-Pierre Benoît avec Arnaud Bouquillon, le maire de Puiseux, vous l'avez compris. On est allé dans les Ardennes ce soir, on ira sûrement dans la Marne demain soir à 18h20. C'est un petit peu notre point de repère, notre fil rouge de chacune de ces émissions, ces rencontres au cœur du territoire. 18h29, passé de 38 secondes exactement, c'est l'heure du journal régional sur RCF, cœur de Champagne, RCF France-Ardennes. Avec les titres de ce jeudi 8 février, 11 mois après la mise en place d'un nouveau dispositif de transport solidaire en Argonne, baptisé Hatchoum, son président fondateur, Vincent Desma, nous présente un premier bilan. Découverte d'Abbé Brasserie à Bernicourt, près de Rethel, dans les Ardennes, avec le brasseur limonadier Fabrice Devy, que l'on a rencontré.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Pour répondre aux difficultés de déplacement de certains habitants de l'Argonne et réduire l'impact écologique et économique du transport, la communauté de communes de l'Argonne champenoise a décidé de mettre en place depuis le 1er mars 2023 un système de transport solidaire à la demande baptisé Hatchoum. 11 mois après, son président fondateur Vincent Desma nous présente un premier bilan satisfaisant.
On est enthousiaste par les résultats sur ce territoire-là. On propose plutôt, on va dire, un bon service, une vraie solution de mobilité sur les territoires ruraux, à la fois par le biais du centre d'appel téléphonique, à la fois par un système de paiement à la fois original, pratique, qui est les tickets mobilité pour ceux qui veulent pas utiliser leur carte bleue. Mais le troisième critère qui est indispensable aujourd'hui pour réussir un déploiement d'une solution de mobilité sur un territoire rural, c'est l'accompagnement. S'appuyer sur une structure associative ou autre style, ça peut être une association, un CCAS, une maison France Service, ça n'a pas d'importance. Et c'est évidemment le cas pour l'Argonne champenoise. Dès qu'il y a un appui local, la réussite, le succès du service répond aux attentes des habitants.
Agrémentée entreprise solidaire d'utilité sociale, la plateforme Hatchoum apporte une réponse au manque de mobilité en milieu rural.
On fait pas du covoiturage en tant que tel que Blablacar, avec des centaines de trajets au niveau national. Là, bon, on est sur un territoire déjà très rural. Je vous redonne les chiffres, c'est 60 communes, 12 000 habitants. Et on est aujourd'hui, vous voyez, on a fait sur le mois de janvier, comme le mois de décembre, en fait, on a fait 37 trajets, c'est-à-dire deux par jour, ce qui est des très, très bons résultats. Voilà. Ça paraît pas, c'est des trajets occasionnels, des trajets où les personnes ne pourraient pas se déplacer en dehors peut-être d'utiliser la famille ou un voisin. C'est évidemment sur des trajets où évidemment il n'y a aucun moyen de locomotion autre qu'il n'y a pas de bus, il n'y a rien de tout ça. Et donc on répond à un vrai besoin, une vraie attente. Et les gens qui utilisent le service après ne le quittent plus.
Des propos recueillis en ligne par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Le succès d'Hatchoum vient des demandes mais aussi des volontaires. Sur 10 trajets, 9 conducteurs sont volontaires et disponibles dans l'Argonne champenoise. L'université de Reims-Champagne-Ardenne a intégré une alliance d'universités européennes qui profitera à la mobilité européenne des étudiants entre possibilité de passer une partie de leur cursus à l'étranger ou même de préparer un diplôme sans européen. Après 20 ans de promesses, un hôtel 4 étoiles va enfin voir le jour au lac des Vieilles Forges dans les Ardennes. La promesse de vente du terrain a été signée entre le département et le promoteur belge Twin Promotion. Un projet simple et sobre de 80 chambres dont la livraison est prévue courant 2026. Destination Bernicourt, une commune près de Rethel dans les Ardennes où Fabrice Devy a posé ses valises il y a plus de 10 ans maintenant pour y brasser sa bière. Suite à un projet réfléchi, il a quitté son activité professionnelle pour se lancer en tant que brasseur limonadier et fonder AB Bière, une entreprise locale qui propose des bières artisanales. Fabrice Devy.
Quand je me suis lancé, j'avais déjà une épouse, une maison, donc un enfant qui venait de naître, donc je ne pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi. Et je me suis surtout lancé puisque j'avais quand même cet ancien qui avait plus de 40 ans de métier, même s'il a toujours fait que ça. Son père était lui-même brasseur. Donc j'avais cette personne-là avec moi derrière. Donc j'avais un prof particulier, si on peut dire. Je pense que si je m'étais lancé tout seul, peut-être je ne serais déjà plus là. Et le parcours est très très compliqué, puisqu'il me l'avait dit à l'époque, il m'avait dit quand on veut faire de la bière, il faut être riche. Et donc à l'époque, je me disais non, j'ai emprunté 10 000 euros en me disant voilà, je suis tranquille, je vais monter ma brasserie. Un mois après, j'ai re-emprunté 10 000 euros et en fait, c'est infini. Faire de la bière, ça coûte pas cher, c'est comme faire du pain, c'est pas les ingrédients qui coûtent cher, c'est tous les à côté, c'est le bâtiment, c'est le matériel. Et après, quand on est lancé, c'est tout ce qui est, je peux faire un cours d'économie, mais c'est tout ce qui est charge, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est impôt, douane, enfin toutes ces choses-là, mais qu'on découvre quand on n'est évidemment pas fils de brasseur ou fils d'artisan.
Un parcours qui a amené Fabrice Devy à créer sa propre marque, la Margoulette, qu'il décline de plusieurs manières.
La marque de mes produits, c'est la marque Goulette. Alors la marque Goulette, pourquoi? Parce qu'en fait, on avait cherché un nom qui fasse un petit peu terroir. C'est vrai qu'en pensant à la marque Goulette, c'est quand même une idée de ma femme, pour rendre à César ce qui est à César. Elle a trouvé le nom à l'époque. Et donc la marque Goulette qui veut dire parler beaucoup, avoir une bonne tête. On s'est dit, tiens, ça colle bien avec la bière, tout ça. Donc on est parti sur ce nom.
Si on le dit un peu vulgairement, dans les Ardennes, avoir une bonne marque Goulette, c'est avoir une grande gueule, si vous me permettez l'expression.
Oui, ben, c'est ça. Et on s'est dit, voilà, plus on boit de bière, plus on a une grande gueule, finalement, puis ça désinhibe. Et pour le coup, la marque Goulette se décline au moins en 15 formes. Je l'ai en blonde, en ambrée, en triple blonde. J'en ai des troncs à la cerise. Je fais le tour IPA aussi. Vous voyez, j'ai la bière de Noël. Donc ça, j'ai toute une panoplie de recettes maintenant qui ont évolué avec le temps. Maintenant, sont stables depuis plusieurs années. Mais voilà, elles ont bougé par rapport au début. Et en fait, j'ai calé mes recettes par rapport au ressenti direct, puisque notre force, si on peut dire, nous, c'est beaucoup la vente directe. Donc on a tout de suite les retombées comme ça, les échos des clients.
Fabrice Devy, qui ne se contente pas de produire des bières, il est aussi limonadier avec sa limonade La Trogne et le premier cola 100% ardennais. À 18h36, on regarde ce qu'il se passe du côté du ciel. Et c'est avec notre stagiaire Mélissa Tavares. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour demain vendredi?
Ce vendredi, le ciel ne sera pas au meilleur de sa forme dans l'ensemble des départements de la Champagne-Ardenne. Le matin, un ciel de nuages gris s'étendra sur tous les départements, sauf dans l'aube où le soleil viendra saluer les habitants de la ville de Troyes. Dans la Haute-Marne, la pluie est et restera présente toute la journée à Saint-Dizier et à Langres. Les thermomètres afficheront pour les températures les plus basses au minimum 9 degrés et pour les plus hautes au maximum 11 degrés. Pour l'après-midi, pas de changement ni pour les Ardennes et pour la Marne. Mais il y aura un changement en particulier à l'aube et ce sera pareil pour la Haute-Marne où la pluie fera son retour. Le mercure grimpera au maximum jusqu'à 13 degrés, une température tout de même plaisante au vu de ce temps. Demain, nous fêterons les Apollines. Nous vous souhaitons une bonne fête à tous.
Merci Mélissa. Effectivement, en avance, une bonne fête à toutes les Apollines qui nous écoutent. On vous retrouvera demain pour les tendances météo du week-end. Et on espère que le temps s'améliorera. Mais d'après les prévisions de Météo France que l'on voit ce soir, ça n'ira pas en s'arrangeant. À noter que demain, le département des Ardennes est en vigilance jaune inondation. Donc, soyez prudents. Certains secteurs seront même fermés à la circulation. 18h37, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RC.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et souvent, le jeudi, juste après le journal régional, on laisse la parole aux jeunes avec une chronique proposée ce soir par Suzanne Josse, étudiante à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, en troisième année, licence information communication. Suzanne Josse, qui en 240 secondes, veut tordre le cou aux idées reçues concernant les jeunes et la lecture.
Bonjour à tous, c'est Suzanne. Vous écoutez 240 secondes, l'émission qui parle des jeunes sur RCF. Aujourd'hui, je vais casser quelques clichés sur la jeunesse. On a tous entendu nos parents nous dire de lire un livre plutôt que de traîner sur les réseaux sociaux. Il y a ce cliché comme quoi la jeunesse ne lit plus. Cependant, ce cliché est-il vrai? Eh bien, j'ai mené l'enquête pour vous et j'ai lu plusieurs études qui prouvent le contraire. J'ai 240 secondes pour tout décrypter, alors si vous êtes prêts, top chrono! On va commencer cette chronique avec un chiffre parlant, 81%. C'est le nombre de jeunes entre 7 et 25 ans qui lisent régulièrement. C'est donc un chiffre très parlant et un chiffre plutôt énorme. Et selon le Centre national du livre en 2022, les jeunes lisent en moyenne 5,4 livres par an. Parmi les livres les plus populaires, on retrouve dans les sous-genres les BD, qui sont très à la mode chez les 7-19 ans, ainsi que les mangas et les comics. Et d'ailleurs, depuis le confinement, 142 librairies ont ouvert en France. Et le Pass Culture, lui aussi, encourage les jeunes à acheter des livres. Pourtant, le cliché énoncé par nos parents est en partie vrai. Les chiffres du Centre National du Livre en 2022 montrent que l'amour pour la lecture décline vers l'âge de 12 ans. Le temps qui était consacré à la lecture est alors remplacé par les écrans. 3h50 par jour, c'est le temps moyen que les jeunes de 7 à 25 ans passe sur les écrans, soit un temps d'écran 7 fois supérieur à celui du temps de lecture. Et on note aussi un phénomène inquiétant, c'est que les manières de lire ont changé, et on peut même dire qu'elles se sont dégradées. Les jeunes font souvent autre chose en même temps qu'ils lisent. Ils regardent des vidéos ou ils envoient des messages, ce qui nuit grandement, vous l'imaginez bien, à la qualité et à la compréhension de la lecture. Et d'ailleurs, dans les écoles, on a noté que la compréhension de l'écrit en France est en forte baisse par rapport à celle des autres pays. Pourtant, ce n'est pas un secret, la lecture a de nombreux bienfaits. Elle permet de développer le langage, d'augmenter la qualité des connexions cérébrales, et certains parviennent aussi à réduire leur stress et leur anxiété par la lecture. La lecture nous aide à mieux comprendre le monde, les autres et nous-mêmes. Alors pourquoi pas faire de la lecture une de vos résolutions pour 2024 ? D'ailleurs, les manières de lire sont en pleine évolution. 40% des jeunes ont déjà lu un livre numérique et beaucoup se tournent aussi vers des podcasts qui sont d'ailleurs en plein essor chez les jeunes. On peut donc dire que les jeunes lisent, puisque 81% d'entre eux lisent régulièrement. Cependant, leurs habitudes de lecture sont différentes. Un chiffre qui peut nous rassurer, c'est que 42% des 7-25 ans disent tout de même adorer la lecture et le livre reste d'ailleurs le cadeau de Noël le plus offert. À titre personnel, je vous encourage évidemment fortement à lire, que ce soit les journaux, une BD ou un roman, rien ne vaut le plaisir de l'évasion par la lecture. Et quel que soit le sujet qui vous passionne, vous trouverez forcément un livre dessus. Alors pourquoi s'en priver ? Les 240 secondes se sont écoulées. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'écouter RCF et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Suzanne, qui nous régale quand t'es dans le timing comme ça, des 240 secondes imparties et sans transition ou presque à 18h42. Chaque année, l'Église célèbre le Dimanche de la Santé. Elle se vivra dans l'ensemble des diocèses de France dimanche prochain, le 11 février. L'occasion pour tous les chrétiens de porter une attention particulière au monde de la santé et de prier pour tous les soignants, les accompagnants, les aidants. Pour nous en parler ce soir, Pierre Paget, délégué diocésain à la pastorale de la santé au diocèse de Chalon, au micro de Christopher Fausten.
Bonjour Pierre Paget.
Bonjour Christopher.
Délégué diocésain à la pastorale de la santé, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation dans le studio de RCF Cœur de Champagne pour évoquer ce dimanche de la santé, ce dimanche 11 février. Alors comme chaque année, proche de la journée du 10 février, journée des malades, avant d'expliquer la différence entre ces deux journées, est-ce qu'on peut d'abord rappeler l'intérêt de cette journée consacrée à la santé, Pierre Paget?
Alors ce qui est important dans cette journée, c'est de voir que la journée de la santé, c'est la journée des personnes qui entourent les malades. La journée des malades, c'est bien les malades, hein, il n'y a pas de souci. Mais la journée du dimanche de la santé, c'est tous ceux qui sont autour du malade, les soignants, les familles, les visiteurs d'hôpitaux, les brancardiers, les pompiers, les médecins, les gendarmes. Voilà, c'est vraiment remercier toutes ces personnes qui consacrent un instant de leur vie ou toute leur vie au service des autres.
D'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'on peut être dans le milieu hospitalier comme on peut être dans une association qui est là pour accompagner les malades. On fait partie justement de ce dimanche de la santé.
Voilà, oui, oui. Et quand je dis, il y a même plus loin, parce que si on prend un pompier ou un gendarme,
oui,
on pourrait dire il ne s'occupe pas de malades, sauf qu'un gendarme, s'il y a un accident, il va bloquer la route, les pompiers vont venir sauver la personne. C'est vraiment très large, c'est, en fin de compte, même les familles sont concernées, parce qu'elles sont aidantes, on a tous été malades, on a tous quelqu'un de chez nous qui sera malade, et donc c'est tous ceux qui entourent la personne malade. Ce n'est pas seulement les personnes hospitalisées comme on aurait tendance à le croire. C'est le monde de la santé, mais avec un grand S, et qui concerne toute l'humanité.
Chaque année, un thème est défini, et cette année, le thème est le suivant. De partout, on venait à lui, selon Marc au chapitre 1, verset 45. Est-ce qu'on peut expliquer le sens de ce thème, Pierre Paget?
Oui, c'est à partir du moment où le Christ, où Jésus a commencé à guérir des personnes, plein de personnes se sont rassemblées autour de lui. Parce que le fait même de toucher que la frange de son manteau, on pouvait être sauvé. Alors il fallait avoir la foi, bien entendu, hein. C'est pas magique. Mais si on a la foi, il y a des choses qui se passent. Et là, c'est aussi la lecture avec les lépreux qui sont rejetés par tout le monde, mais si on, qui vont être sauvés par lui. Parce qu'il croit. Il croit en son amour, en sa fraternité. Et c'est ça, être croyant, ça nous sauve. La foi nous sauve. Et Jésus nous sauve si on a la foi. Et donc là, le thème, c'est avoir la foi.
Avoir la foi et transmettre justement la foi à l'entourage.
Oui, à l'entourage, bien sûr, aux médecins, aux soignants, aux siens, à tous nos aidants. Hein, parce que dans les familles, il y a beaucoup d'aidants qui souffrent de la maladie de leur conjoint, de leur enfant, de leurs parents. Ce n'est pas facile d'être aidant, c'est épuisant. Mais le malade, il a foi en eux. Comme ils doivent, comme nous, chrétiens, nous avons foi au Christ qui est notre aidant suprême.
Alors cette journée du dimanche de la santé a lieu bien sûr partout en France. Chaque diocèse l'anime à sa manière. Concernant le diocèse de Châlons, il n'y a pas entre guillemets d'animation, mais par contre on invite à l'ensemble des paroisses, des espaces missionnaires, eh bien, d'apporter leur attention de prière justement à cette journée lors de la célébration de ce dimanche. C'est ça l'objectif?
Oui, voilà. C'est que ce qui est important, c'est que tous les chrétiens se sentent concernés. Prie pas que pour les malades, comme je disais, parce qu'on a tendance à, et c'est vrai que c'est le réflexe, c'est de se s'obnubiler sur les malades, mais c'est de prier pour tous ceux qui sont autour. Donc dans les prières universelles, il faut que ces prières universelles soient ouvertes à tout le monde, à tous ces aidants, quels qu'ils soient, parce que les malades sans les aidants, ben ils font plus rien, ils meurent. C'est vraiment ça qui est demandé aux chrétiens, aux toutes les paroisses. Après, il y a des paroisses qui font des processions particulières,
oui.
Qui font intervenir des personnes d'associations, de l'État aussi, quand c'est des gendarmes, des pompiers et compagnie. Mais chacun est libre. Mais l'essentiel, c'est que les prières universelles soient vraiment consacrées une partie aux malades et une autre partie à tous les aidants.
Alors pour accompagner les paroisses, ce dimanche 11 février, la pastorale de la santé met à disposition des livrets, des fiches justement pour accompagner à ces intentions de prière.
Oui, voilà. Donc chaque paroisse a reçu un livret, donc un livret qui s'appelle « De partout on venait à lui ». Dedans, il y a des pistes pour préparer la célébration, des chants qui sont présentés, mais rien n'est obligatoire. C'est vraiment un outil de travail pour aider. Et puis, ce qui est important, c'est que dessus, il y a des petites fiches qu'on donne à la fin de la messe,
oui.
Et il y a une prière derrière, et on demande à ce que dans toutes les paroisses, cette prière soit lue. Alors la voici. « Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Dieu notre Père, pour Jésus ton Christ. Il a partagé le tout de nos vies, avec leur lot de bonheur et de réussite, de souffrance ou de peine, avec leurs tourments et leurs manquements, avec leurs doutes et leurs emportements. Par lui, nous te savons tout proche de chacun, à chaque instant. De partout, nous venons à lui. De partout, il nous mène à toi. » Un poème de Chantal Lavoilotte.
Merci pour ce partage à nos auditeurs aujourd'hui sur RCF. Pierre Paget, délégué diocésain à la pastorale de la santé au diocèse de Châlons, avec nous aujourd'hui sur RCF pour évoquer ce dimanche de la santé. C'est l'occasion aussi de présenter la pastorale de la santé du côté du diocèse de Châlons, puisqu'il faut le dire, Pierre Paget, la pastorale de la santé fait partie justement eh bien, de tous ces acteurs qui sont concernés à ce dimanche de la santé.
Oui,
plus qu'impliqué.
On est tous impliqués, ça c'est sûr. Et donc la pastorale de la santé est composée des aumôneries d'hôpitaux,
oui,
du service évangélique des malades et puis de la pastorale des personnes handicapées. Donc chaque service a ses objectifs,
hein, ses missions.
Et
oui.
Et alors là, je vais être plus sur les hôpitaux.
Oui.
Puisque je suis responsable diocésain des aumôneries des hôpitaux, en plus de délégué diocésain de la pastorale de la santé, on a besoin, comme tout le temps, on a besoin de visiteurs et on a besoin de brancardiers pour toutes ces personnes qui sont hospitalisées et tous les résidents et résidentes en EHPAD. C'est vraiment important d'avoir du monde.
Oui.
Alors, il y a le PSM, l'établissement spécialisé psychiatrique de la Marne, qui a besoin, parce que Françoise Rouillon, qui est l'aumônier, est toute seule.
Oui.
Elle a vraiment besoin qu'on la soutienne pour toutes ces personnes qui ont des problèmes psychiques. Il faut vraiment que les chrétiens répondent à cet appel.
Donc là, c'est un message à appel à bonne volonté.
À bonne volonté pour le PSM, pour Françoise, parce qu'elle ne peut pas rester toute seule. Et puis après, il y a les hôpitaux. Les hôpitaux, on aura toujours besoin de quelqu'un.
Pour les personnes éventuellement qui nous écoutent, qui seraient intéressées à bien devenir volontaires et à s'investir dans ce milieu, comment faire? Il suffit de vous contacter directement, Pierre Pagé?
Voilà, il suffit de me contacter. Il n'y a pas de souci. Et puis,
comment vous contacter?
santé.ddps@chalon.catholique.fr
santé.ddps@chalon.catholique.fr
ou alors au 06 71 01 20 72.
Merci Pierre Pagé d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF, délégué diocésain à Chalon à la pastorale de la santé, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Très bon dimanche de la santé, très bonne journée des malades également, on l'oublie pas, ce 10 février, et à très bientôt.
Effectivement, on se joint à vous pour souhaiter un très bon dimanche de la santé à l'ensemble des personnes, les équipes du Pertois, de l'hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes, de Chalon et de la pastorale de la santé organisent une messe pour les malades, pour l'ensemble de l'espace missionnaire du Pertois. C'est ce samedi 10 février à 18h dans la salle chauffée de l'église Saint-Charles de Foucault de Vitry-le-François, avec la possibilité de recevoir l'onction des malades pour ceux qui s'inscriront auprès de l'accueil du presbytère.
Le 18-19 sur RCF.
Un dernier invité ce soir, ce jeudi, pour terminer tous ensemble, Olivier Cuissard, directeur de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, nous rejoint en studio avec un événement incontournable ce week-end.
Olivier Cuissard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que l'année avance, et l'avance tellement qu'on pense déjà à la rentrée 2024-2025. D'ailleurs, vous organisez samedi vos journées portes ouvertes.
Oui, on est sur le temps long, on pense en réalité déjà à la rentrée 25-26 pour tout vous dire, mais la rentrée 24-25 approche effectivement très vite.
Et donc, cette journée porte ouverte, elle a pour objet de faire découvrir l'ICP et toutes ses facettes.
Oui, on ouvre le campus aux jeunes gens des lycées locaux, qui voudraient découvrir un petit peu le monde universitaire. Et on y fait venir, en interne du moins, nos responsables de licence qui vont leur parler du cursus qui potentiellement peut les intéresser, des débouchés possibles, des masters derrière possibles, etc., etc.
Alors justement, les licences, on peut rappeler quand même qu'il y en a oui, de multiples licences.
On a 5 licences, 3 licences historiques qui sont la licence sciences économiques et sciences politiques, une licence en sciences de l'éducation, qu'on ouvre d'ailleurs à Nancy pour la première fois cette année. Donc c'est un beau projet qui se déploie, le campus de Reims s'ouvre à Nancy. Et puis la licence information communication pour les métiers du journalisme notamment. Et puis on a ouvert il y a 2 ans maintenant la licence de droit qui marche très très bien, et puis une licence aussi en histoire-géographie.
Voilà. Alors justement, ces élèves qui vont entrer en 2024, ils passent par Parcoursup, et oui, on invite bien sûr, vous invitez Olivier Cuissard, les étudiants à s'inscrire.
Bah, on les invite à s'inscrire si ce sont leurs choix, mais on leur montre surtout comment il faut faire, parce que ça peut parfois être anxiogène, hein, notamment pour les parents, je pense. Donc lors de cette journée porte ouverte, on leur explique aussi les démarches, la méthodologie et les différentes pièces qu'il faut mettre, qu'il faut accrocher, entre guillemets, dans l'inscription Parcoursup.
Alors évidemment, après les licences, il y a forcément les masters.
Oui.
Il va y avoir 3 ans maintenant que vous êtes ouvert. Le temps a passé à une vitesse record.
Oui, c'est...
Je me souviens quand vous étiez là, vous vous installiez, vous n'étiez, c'est le vrai. Campus n'était pas ouvert, vous n'aviez pratiquement pas de bureau.
Les travaux.
Vous étiez dans les travaux, et ça fait déjà 3 ans. Enfin, la troisième année s'achève. Et donc, on arrive pour les masters. Alors, 2 questions, Olivier. Est-ce que les élèves de licence de l'ICP vont poursuivre en master, ou est-ce que les masters, ça va être l'objet de nouvelles arrivées qui viennent de l'extérieur?
Je pense un petit peu les deux. Déjà en septembre 2023, on a ouvert 2 masters. Donc on a 2 masters qui fonctionnent déjà, notamment en sciences de l'éducation, pour former les futurs professeurs des écoles et les futurs encadrants dans les établissements scolaires, les conseillers d'éducation, les chefs d'établissement, etc. Donc ça fonctionne très très bien. Mais on en ouvre 2 autres à la rentrée de septembre 2024. Prochaine rentrée de septembre, un en gestion des PMI-PME, des moyennes entreprises, pour former des cadres généralistes de très haut niveau dans les entreprises, principalement locales d'ailleurs, et puis un en gestion des exploitations agricoles et viticoles. C'est quelque chose qui n'existe pas pour le plus gros territoire agricole français. C'est une formation qui n'existe pas, donc du coup, c'est aussi notre expertise, hein, le management. Donc on s'est dit qu'on va proposer ça à nos étudiants locaux. Et je pense, pour répondre précisément à la question, c'est que on aura des jeunes gens qui sont déjà dans nos licences, qui sont fils d'agriculteurs, fils de viticulteurs, qui sont fils de patrons locaux, etc., qui vont bien évidemment poursuivre avec nous. Et puis, on va aussi attirer, c'est l'occasion de cette porte ouverte de ce samedi, on va attirer des jeunes gens d'autres établissements potentiellement qui peut-être pensaient pas faire des études, qui peut-être pensaient partir loin pour finir leurs études, mais par l'ouverture de ces masters vont pouvoir en local continuer à se former jusqu'au bac plus 5.
Pour les élèves de terminale, il y a Parcoursup. Pour les élèves de master, ce n'est plus Parcoursup.
Ah non, Parcoursup, c'est uniquement pour les jeunes gens qui sortent de lycée. Ensuite, il y a deux options. Il y a une plateforme qui ressemble à Parcoursup qui s'appelle monmaster.gouv pour quelques masters qui sont en reconnaissance rectorale. Donc vous en avez à peu près la moitié qui sont sur monmaster.gouv et l'autre moitié, c'est en lien direct avec les établissements. Donc il faut déposer vos dossiers sur les établissements. Nous, à l'ICP, par exemple, on a les deux. On en a certains qui sont sur monmaster.gouv et d'autres qui sont en inscription directe.
Est-ce qu'il peut y avoir des étudiants intéressés par les masters qui viennent vous voir directement? Vous n'allez pas leur faire de promesses, mais déjà se renseigner sur ces masters.
Ah oui, bien sûr, les portes ouvertes. Moi, je présente, ne serait-ce que samedi, à la journée porte ouverte, les 4 masters que nous avons en ouverture sur le campus de Reims. Et je l'ai fait la semaine dernière. J'étais à Paris, sur le campus parisien. Je l'ai fait la semaine dernière. On a eu 6000 inscrits à la porte ouverte. 6000 inscrits.
C'est impressionnant.
C'est Paris, ceci dit. Et nous, on a 500 inscrits. C'est déjà très bien à Reims pour samedi.
Alors, il faut dire aussi que tous les étudiants, tous les élèves de terminale peuvent participer à cette journée porte ouverte samedi.
Oui.
Et pour les masters, vous les recevez, vous leur expliquez. Ils peuvent venir aussi à la journée porte ouverte.
Oui.
Une question que les auditeurs nous posent parfois de temps en temps. Si on a des difficultés, est-ce que vous accueillez des élèves boursiers à l'Institut catholique de Paris?
Tout type de difficultés d'ailleurs. Les boursiers, bien évidemment. Pour tout vous dire, j'ai presque un étudiant sur deux qui est boursier. Presque un sur deux, 45%. Donc on est presque à la moitié d'étudiants boursiers. Des boursiers du CROUS, classique. Et puis des bourses que nous attribuons, puisque nous attribuons aussi beaucoup de bourses. Alors ça peut être des bourses pour aller faire son stage, pour son déplacement à l'étranger, des bourses au mérite pour les meilleurs étudiants, des bourses... On a fait pendant la période de confinement des bourses pour l'abonnement téléphonique et internet, puisque certains cours ont dû se faire en distanciel. Voilà, il y a eu de multiples bourses au sein de l'ICP. Donc on souhaitait faire en sorte que les conditions tarifaires ne soient pas un frein à l'inscription.
Ça méritait d'être posé, c'est une question qui pourrait être l'objet d'interrogations pour les auditeurs de RCF. Est-ce que tout le monde peut, quels que soient ses moyens, accéder à l'ICP? La réponse est donc oui. Alors, Olivier Cuissard, il y a la rentrée avec les cours, il y a la rentrée avec les locaux. Alors, on vous interroge de temps en temps, là c'est plutôt interne, mais c'est quand même bien de savoir qu'ils vont quand même avoir des locaux réaménagés, refaits.
Pour tout vous dire, sur la partie qu'on a rénovée, que vous connaissez bien, dans laquelle vous êtes installé, l'aile A, on est plein comme un œuf. Le succès est tel que on n'a plus une salle de cours de libre. Et donc, on entame les travaux. Vous avez peut-être vu le début du désamiantage et puis des études qui ont été faites sur l'aile B. Donc, on va réhabiliter 2500 m² supplémentaires. Par nécessité, on n'a pas suffisamment de salle de cours.
Essentiellement le rez-de-chaussée, le premier étage.
Les 4 étages.
Les 4 étages, tout va être réhabilité.
Tout réhabilité, oui. 2500 m² supplémentaires, on va doubler la surface du campus.
Et vous allez tenir les distances, je veux dire, en septembre, ça sera ouvert?
Je peux pas m'avancer trop là-dessus, vous connaissez les aléas, mais on va essayer avec l'architecte de faire en sorte qu'on puisse déjà utiliser les salles de cours, même s'il reste des petits coups de peinture à droite à gauche.
Olivier Cuissard, on rappelle donc... À partir de 10h, sera samedi.
Ce samedi.
C'est la journée porte ouverte de l'ICP, campus de Reims. On invite bien sûr tout le monde à venir, les parents, les grands-parents, parce qu'il y a beaucoup de...
Tout le monde sont
intéressés.
Je pense que la beauté du lieu vaut le déplacement en soi.
Donc, et puis retrouver ce cloître. Et l'été, quand les travaux seront faits, ça sera vraiment formidable. Il suffit d'attendre quelques semaines et quelques mois. Merci Olivier Cuissard d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Olivier Cuissard que vous retrouverez donc samedi tout au long de la journée à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Ça sera évidemment l'occasion de découvrir pourquoi pas la maison Saint-Sixte, mais aussi ces belles salles de cours aménagées, les différentes licences, on a dit 5 licences, les masters également. Tout tout un programme ce samedi 10 février. Plus d'informations sur le site internet de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Elle nous a accompagnés jusqu'à 19h. Elle sera là demain, Mélissa Tavares. Une très bonne soirée.
Bonne soirée à tout le monde.
Et il est à la mise en onde ce soir, à la technique. C'est notre ami Fabrice Gironnet. On a entendu sa voix en début d'émission. On peut l'entendre en fin d'émission. Une très bonne soirée, Fabrice. Allez-y, baissez le micro. Vous avez un petit peu de temps.
Non, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on va lancer le générique.
Eh bien, très bien. Lancez le générique. Voilà, comme ça, vous avez tout ce qu'il se passe en coulisses. Et nous, on se retrouve demain à 18h10 avec notamment Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, qui reviendra sur les prêtres de la province qui étaient réunis à Ars tout au long de cette semaine. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.